Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Merci de suivre cet autre numéro d'Economia. Nous parlons toujours du budget 2024 de la Côte d'Ivoire. Budget qui s'élève, on rappelle, à plus de 13 700 milliards de francs CFA. Nous sommes toujours en compagnie de notre consultant, expert économiste, Faustin Onozon, pour en parler. Et ce sera dans quelques minutes dans la rubrique Regard sur la gestion de l'économie nationale. À suivre également dans Economia de ce jour, les rubriques Le Lexique économique et les tendances de la bourse avec notre Quoi au Brice. Voici donc les différentes articulations de ce rendez-vous de l'actualité économique sur Radio de la Paix. Bienvenue à tous.
Le lexique économique. Le lexique économique.
La balance des paiements.
La balance des paiements est un document de comptabilité nationale qui retrace l'ensemble des flux économiques. Ça peut être des biens, les services, les capitaux et bien d'autres flux financiers.
L'endettement d'un pays.
L'endettement est la situation par laquelle une personne morale ou physique ou un État contracte une dette ou accumule des dettes pour régler les besoins d'ordre financier.
La corruption.
La corruption est le détournement d'un processus donc ou d'une interaction avec une ou plusieurs personnes dans le dessein pour le corrupteur généralement d'obtenir des avantages ou des prérogatives particulières ou pour le corrompu, celui qui reçoit donc, d'obtenir une rétribution en échange de sa complaisance.
Regard sur la gestion économique nationale.
Nous vous retrouvons avec beaucoup de plaisir dans le cadre de la rubrique Regard sur l'économie et nous nous intéressons au budget de l'État de Côte d'Ivoire. Budget 2024, 13 720,7 milliards de francs CFA et nous décortiquons donc cette information avec notre expert, M. Faustin Onozon. M. Faustin Onozon, bonjour.
Bonjour M. Koumé.
Pour ceux qui nous prennent maintenant en marge, rappelons un peu c'est quoi le rôle d'un budget.
Mais comme la semaine dernière, on l'avait dit, le budget de l'État, c'est l'ensemble de ses ressources et de ses dépenses.
Ressources et dépenses, donc, ça s'équilibre un budget.
Qui parle de ressources, parle de recettes. Qui parle de dépenses, parle effectivement de dépenses. Donc, ça s'équilibre en recettes et en dépenses.
Mais il arrive des fois que les prévisions de l'État, par exemple, pour ce cas, 13 700, et puis l'État n'arrive pas à recouvrer tout cela. Vous, économistes, en ce moment, quel qualificatif vous donnez à ce budget-là?
Oui, bon, c'est vrai qu'on parle toujours d'un budget équilibré. Mais il y a un petit gap quand même. Dès lors où l'État n'atteint pas toutes les recettes escomptées et qu'il doit certainement bénéficier du concours extérieur ou d'une dette extérieure, qui peut être, ou même d'une dette intérieure, intérieure, extérieure, l'État profitera alors de certains indicateurs qui sont connus, qui participent à ce qu'on appelle le déficit budgétaire. C'est-à-dire, on s'endette pour pouvoir rattraper le gap afin que nos recettes soient équilibrées avec nos dépenses.
Donc concrètement, lorsque nous parlons du déficit budgétaire, on se dit, je dois avoir 1000 francs, j'ai peut-être 700 francs, je dois aller trouver 300.
Quelque part.
Donc je cherche quelque part pour combler ce déficit de 300, c'est cela?
Voilà, mais en fait, un tel budget en réalité, c'est un budget qui est déficitaire.
Ah bon?
C'est-à-dire les dépenses sont supérieures aux recettes. Mais il y a des budgets où les recettes sont égales aux dépenses. Et il y a même d'autres budgets qui sont des budgets excédentaires. Les recettes sont supérieures aux dépenses. Ce genre de budget, il faut aller dans les pays véritablement riches, les pays où on la manne, tels que le pétrole qui coule, comme dirait l'autre à flot. Et ce sont des pays où il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de devises.
On a noté que pour le cas de la Côte d'Ivoire, depuis quand même une dizaine d'années maintenant, le budget chaque année augmente pratiquement depuis 2011 jusqu'à maintenant, près de 14 000 milliards. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est une traduction de ce dynamisme de la Côte d'Ivoire qu'on note? On peut lire cela comme ça?
Ben, je ne voulais pas dire, fort heureusement, que tout le monde voit. Tout le monde voit ce qu'on fait avec ce budget-là. Et là, nous sommes sur les dépenses, n'est-ce pas? Et ce sont généralement des dépenses de fonctionnement et puis des dépenses d'investissement. Pour ce qui est des dépenses de fonctionnement, c'est généralement les salaires. Et chaque année, l'État embauche beaucoup de citoyens, beaucoup d'étudiants. Il y a certains qui font des concours directs. Il y a d'autres qui sont pris directement au niveau de la fonction publique. Donc, les emplois, ce qu'on appelle en économie la consommation, augmente régulièrement chaque année. année. Même quand on regarde notre fonction de production, le volet consommation est toujours en nette augmentation. Ça, c'est l'aspect positif de la variation de la production nationale. Et donc, on peut dire déjà que l'État est en phase avec tout ce qui est développement économique et financier. Et puis l'autre aspect, ce sont les investissements. Bon, il y a des ponts, il y a tout ce qu'on peut imaginer, il y a des routes et autres. Et donc, tout cela, quand il y a un investissement additionnel, c'est qu'il y a une variation positive de la production nationale. C'est ce qu'on recherche, en fait. Et ça veut dire qu'on fait quelque chose avec ce que nous gagnons, avec ce que nous prenons à l'extérieur, avec nos différents endettements. Et on fait quelque chose de positif avec ça. Et ça réjaillit sur le niveau de la production nationale. Et donc, je pense que c'est vrai, notre budget augmente d'année en année, mais cela dénote aussi de la vitalité, du dynamisme de l'économie de la Côte d'Ivoire.
Alors, c'est vrai, hein, vous le dites, mais bon, le citoyen, lorsqu'il voit ça, il se réjouit, c'est vrai. Mais bon, certains aussi estiment que des fois, ça s'augmente, mais bon, les dépenses de l'État, on en parle, les dépenses de l'État sont un peu trop. Des fois, aller s'endetter, on se lie un peu. Est-ce qu'en termes d'approche, la tendance aujourd'hui, hein, en tant qu'économiste, c'est de réduire la charge de la dette dans le budget ivoirien?
Ben oui, mais ce n'est pas seulement dans le budget ivoirien, c'est dans tout budget d'un État. L'objectif de l'endettement, c'est quoi? C'est avoir une variation positive de notre production nationale. C'est de s'enrichir en quelque sorte. Mais dès lors où on s'enrichit, on ne devrait pas continuer à s'endetter si cela ne s'avère pas nécessaire. Mais si c'est important, on continue. C'est par exemple le cas de notre pays, de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est vrai, il faut certainement un jour s'arrêter. Mais on s'arrêtera quand on verra qu'on a atteint nos objectifs escomptés en matière de consommation, en matière d'investissement, en matière de gestion du nouveau de nos relations financières avec l'étranger, en matière du solde de notre commerce extérieur, c'est-à-dire pour tout ce qui concerne les importations et les exportations. Est-ce que les importations sont en augmentation parce qu'on en a besoin? Est-ce que les exportations sont aussi en augmentation? Est-ce qu'elles sont supérieures aux importations? C'est surtout ça. Mais lorsqu'on constate, par exemple, que chaque année, les importations sont supérieures aux exportations, malgré les nombreux crédits que nous prenons, lorsqu'on constate que chaque année, le solde de notre balance des paiements, le solde primaire, le solde primaire est négatif, et puis le solde secondaire, ça, le solde global, est lui aussi négatif, ce qui vous donne un solde de la balance des paiements final positif, ce qui n'est pas bon. Donc, dans ce cadre bien précis, mais on va se poser des questions. On se dira, mais à quoi sert l'endettement? À quoi sert l'endettement?
Donc, pour réduire l'endettement, hein, il y a l'effort à faire par les nationaux. Déjà, hein, dans les recommandations, les institutions internationales donc, de finances conseillent des efforts beaucoup plus en mobilisation de ressources. C'est-à-dire que chaque Ivoirien ou chaque habitant de ce territoire doit aussi mettre la main à la pâte, faire en sorte que on soit moins dépendant de l'extérieur, c'est
ça? Oui, ça c'est une solution parmi tant d'autres. C'est-à-dire que nous devons beaucoup travailler au niveau national. Et que beaucoup travailler au niveau national revient à dire aussi qu'il faut s'endetter vis-à-vis de nos banques nationales. Mais c'est vrai que là, l'endettement s'est fait en France CFA, il y a moins d'impact négatif sur nos relations financières avec l'étranger, c'est déjà quelque chose de positif. Alors que lorsqu'on s'endette vis-à-vis de l'étranger, c'est en devise. Et cela, c'est vrai, au niveau de la balance des paiements, ce sont des recettes. Mais il faut les rembourser. Et chaque fois qu'on les rembourse, ces recettes-là peuvent s'amenuiser et puis ça peut entraîner un solde monétaire positif de notre balance des paiements alors que tout pays recherche toujours un solde monétaire négatif, c'est-à-dire un solde monétaire qui permet à la balance des paiements et à ce que on a comme devise de l'extérieur de couvrir le processus de création monétaire.
Sur un point, hein, lors donc du Conseil des ministres récent, hein, dans le mois d'octobre, lorsqu'il était question du budget, le chef de l'État insistait sur un point, la bonne gestion des ressources de l'État. La question justement de la gestion de ces ressources qu'on mobilise chaque année, élément important aussi, hein, pour que les ressources qu'on a soient utilisées de manière efficiente, hein, un aspect sur lequel il faut insister.
Oui. Parce qu'il y a un équilibre entre les ressources et les dépenses. Et dès lors où on alloue, par exemple, à un département ministériel des ressources, mais c'est bien pour pouvoir travailler. Alors si ce département ministériel n'arrive pas à atteindre les objectifs escomptés, ça veut dire qu'on n'a pas bien géré les ressources de l'État. Et si on ne gère pas bien les ressources de l'État, c'est qu'on n'atteindra pas nos objectifs en termes de variations positives de la croissance
macroéconomique. La question de la lutte contre la corruption, hein, élément important sous nos tropiques maintenant.
Oui, ça je ne vous le fais pas dire. Ce n'est pas seulement chez nous, sous nos tropiques, c'est dans le monde entier.
Bon, en considérant déjà le cas ivoirien, oui. Voilà.
Lorsque vous entrez sous le net, vous verrez qu'au niveau de tous les pays du monde, chacun a sa petite dose de corruption. On dira que la Côte d'Ivoire est à tel niveau, la France est à tel niveau, les États-Unis sont à tel niveau. Mais ce qui nous intéresse, comme vous le dites si bien, c'est notre pays. Mais je crois que ça c'est une question aussi de volonté politique. Et puis, il y a une manière de conscientiser aussi les Ivoiriens, et même le citoyen ivoirien. Il faut bien apprendre aux uns et aux autres que la corruption ne peut pas permettre à un pays de se développer, bien au contraire. Et la corruption ne peut qu'entraîner un pays vers le désordre, dans tous les domaines d'ailleurs. Et donc, il est important de permettre aux uns et aux autres d'avoir des cours en matière de gestion, en matière de corruption. Et quand est-ce qu'il y a, quand on dit qu'il y a corruption, et quels sont les dangers de la corruption, et qu'est-ce que la corruption vous empêche d'avoir, etc., etc. La corruption n'a jamais arrangé le développement économique et financier d'un pays.
Oui, parce qu'on voit des personnes riches, mais ce n'est pas la communauté qui est riche. Hein.
Tout à fait. Ce qui est même important dans cet état de choses et d'esprit, c'est que les grands corrompus ont aussi ont des réseaux un peu partout. Voilà, et c'est ce qu'on appelle le blanchiment des capitaux.
C'est cela.
Ouais. Encore si ces fonds pouvaient demeurer en Côte d'Ivoire. Mais généralement, ce sont des fonds qui sortent. Et quand ça sort, qui perd? C'est notre pays qui perd. Et puis ça ne sort pas en France, CFA. Ça sort en devise. Dès lors où ça sort en devise, c'est qu'il y a un impact négatif sur notre balance des paiements extérieurs.
Donc, un aspect important dans le cadre de la lutte et de l'efficacité de ces budgets qu'on élabore chaque année. Alors, votre regard sur cette évolution de ce budget-là, vous l'avez dit, élément important en termes donc de dynamisme, mais surtout, est-ce que l'utilisation de ce budget ou des ressources de ce budget est une utilisation efficiente de votre regard aujourd'hui? Les secteurs prioritaires qui fondent l'économie d'un pays, surtout qui se veut émergent, est-ce qu'on est sur la bonne voie, M. Onozon?
Oui, Monsieur Koumé. J'avais dit déjà que, en termes de dépenses, ce sont des dépenses de fonctionnement et puis des dépenses d'investissement. Pour les dépenses d'investissement, ce sont des opérations d'équipement. Et ces opérations, ce sont de nouvelles opérations qu'on fait chaque année. C'est ce qu'on met sur pied dans le cadre d'un budget. Et lorsqu'on voit donc les réalisations qui sont faites par l'État en termes d'équipement, on se rend compte que notre budget est géré à notre sens, d'une manière tout à fait cohérente. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas le contrôler. Et le chef de l'État l'a dit, il demande aux uns aux autres de gérer ce budget d'une manière tout à fait cohérente. Et donc, nos structures de contrôle, à mon sens, doivent effectivement prendre le pas et puis faire leur travail d'une manière tout à fait cohérente également.
En tout cas, 2024, budget de 13 720,7 milliards en hausse comparativement au budget de 2023, c'est déjà un pas positif. Alors, en termes donc de perspective, on peut dire que d'ici 2025, on aura des budgets de 15 000 milliards. Voilà, le pays s'enrichit, les Ivoiriens aussi, c'est ce qu'on peut souhaiter, n'est-ce pas?
Oui, et moi, ce que je pourrais même déjà souhaiter, c'est au niveau de la variation de la production nationale. Parce que l'objectif qu'on veut atteindre avec un tel budget, c'est faire en sorte que notre taux de croissance macroéconomique varie et qu'on s'enrichisse un peu davantage. Vous voyez, notre PIB, par exemple, il est de 77 milliards de dollars, à côté du PIB des États-Unis qui va à plus de 21 000 milliards de dollars US. Je dis que nous avons encore beaucoup à faire. Et il faudrait que les Ivoiriens travaillent. Il faudrait que chacun, à son niveau, se demande, mais qu'est-ce que je peux apporter pour que ce budget-là de 77 milliards de dollars puisse être multiplié par 3 ou par 4 dans le PIB nigérien supérieur à plus de 400 milliards de dollars US. Et c'est le premier pays en Afrique aujourd'hui.
Et c'est ça qui comprend pour mesurer la véritable richesse du pays et la performance.
Voilà, donc on a encore beaucoup à faire. C'est pourquoi le chef de l'État demande aux uns aux autres de gérer correctement ce qu'on met à leur niveau, les crédits qui leur sont alloués, aussi bien en termes de fonctionnement qu'en termes d'équipement.
En tout cas, piste de solution, on a voulu décortiquer et mieux comprendre le budget et son utilisation. C'est vrai, chaque année, on nous l'annonce, budget de l'État, tel niveau, mais ça réjaillit sur tout le monde, n'est-ce pas? Ça réjaillit sur chaque citoyen et chaque citoyen doit contribuer à permettre à l'État d'avoir des ressources. Monsieur Fosson-Nozon, on en a appris beaucoup sur donc le budget de l'État. Merci.
Je vous en prie.
Tendance de la bourse.
Nous avons l'occasion chaque semaine de recevoir M. Kouaou Brice pour nous éclairer sur comment investir en bourse. C'est dans le cadre des tendances de la bourse avec lui. M. Kouaou, bonjour.
Bonjour M. Koumi, bonjour à tous les auditeurs.
Heureux de vous retrouver encore une fois. La semaine passée, pour ceux qui nous ont suivis, vous faisiez une comparaison entre, par exemple, l'investissement en bourse, l'épargne dans les banques, également dans les assurances. Alors, on va répréciser notre idée. Justement, on se rend compte que mettre l'argent, par exemple, en banque, nous génère des intérêts, 3% en moyenne, en fonction, bien sûr, des structures bancaires. En assurance, on a aussi, en fonction des polices d'assurance, une rétribution si on a des cas de sinistre. Et puis, la bourse, vous avez parlé de 9% par là. Évidemment, si on veut comparer les chiffres, on est plus tenté à dire que la bourse est intéressante. Mais la question que nous vous posons, est-ce qu'il y a des risques ou non? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il est plus risqué que le taux est un peu plus élevé?
Bon, déjà, ce n'est pas pour cette raison-là, mais je vais répondre par le début. Oui, il y a des risques, mais en fait, il y a des risques dans toute activité humaine. Vivre même, c'est risqué. Donc, il faut aussi que les francophones fassent la paix sur cette histoire du risque-là. Mais il faut vraiment qu'on comprenne que là où se trouvent les opportunités, se trouve aussi un certain niveau de risque. Donc, quand on veut occulter complètement le risque, on prend le risque, justement, d'occulter aussi complètement les opportunités. Donc, il faut aussi qu'on regarde ça objectivement. Pour revenir au cas de la bourse, quand on a fait la semaine passée la comparaison banque, bourse, assurance, ce n'était pas pour rediriger tout le monde vers la bourse. Ce n'était pas dans cet esprit-là. C'est pour vous montrer un peu comme quand l'EVA est venu. L'idéal, vous avez compris, n'aurait pas été pour les planteurs de cacao de couper le cacaoyer pour faire de l'EVA. Même si certains l'ont fait à tort. C'est de dire, j'ai une culture qui me rapporte deux fois par an et j'ai une culture qui rapporte chaque mois. J'ai une culture qui est comme des arbres qu'on ne doit pas entretenir et une autre. Chaque fois, on parle des scholl & scholl qui vient nous fatiguer. Est-ce que je n'aurais pas diversifié mes cultures de sorte à obtenir un meilleur rapport? C'est un peu ça. Aujourd'hui, on a des gens qui ont de l'argent qui ne savent pas dans quoi investir.
Déjà, sans aller dans des aspects techniques, pourquoi, selon vous, les citoyens ont cette crainte de l'inconnu, surtout dans des investissements?
Bon, il y a des dimensions culturelles déjà. On est francophone et si vous étudiez bien les Français et les Anglais, vous verrez clairement cette différence-là. Donc, on a hérité un peu de ça. Et puis, on a hérité d'un pays où pendant longtemps, il y avait une culture de sécurité dans le travail avec le père fondateur de la nation. Les gens n'avaient pas besoin de prendre des risques pour retomber sur le pied. Donc, on n'a pas cette habitude-là. Autour de nous, par contre, c'est très différent. Les gens ont vécu dans des conditions plus difficiles. Ils ont appris à émigrer. Ils ont appris à mettre en place des activités. Donc, ils n'ont pas la même représentation des choses que nous. Aujourd'hui, notre contexte a changé. Et c'est pour ça que les gens prennent conscience qu'il faut qu'ils fassent un peu plus que se cantonner d'un travail et d'un salaire et se plaignent après de l'employeur. Donc, les gens sont plus ouverts à la prise de risque. On l'a vu avec l'agro-business, les maisons de déplacement. Et c'est pour ça qu'on vient aujourd'hui leur dire, vous êtes dans une meilleure disposition mentale. Nous, on vient avec une formation et un domaine qui peut, à notre avis, vous permettre d'avoir cette meilleure rentabilité que vous cherchez là, avec des risques plus réduits que les activités qu'on a citées tantôt.
Vous voyez, une formation, on va repréciser que vous faites chaque mois pratiquement une formation pour affiner un peu tout ce que peut-être les auditeurs écoutent.
Hein. Voilà, au-delà de ce que nous apprenons à la radio, dans les articles, tout ce que nous vous partageons tourne autour de l'initiation. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Combien ça coûte? Qu'est-ce que ça rapporte? Pour ouvrir l'esprit des gens, nous estimons que vous avez le droit de savoir ça et de le savoir gratuitement. Par la suite, ceux qui parmi vous ont aimé ce qu'ils ont entendu viennent pour en savoir plus, notamment sur les aspects liés au comment. Donc, comment investir concrètement? Comment choisir une action? Comment passer une note de bourse? Comment les encaissements se font? Donc, c'est un peu une formation en deux temps.
Alors, justement, on va revenir à notre sujet. On était en train de faire des comparaisons entre ces manières d'investir ou d'épargner. Alors, on a de l'argent en compte. Généralement, il est conseillé à chaque travailleur d'épargner quelque chose. Mais quand on épargne, hein, c'est un moment qu'on a quand même une certaine surface financière. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Bon, déjà, comme je le disais, chaque système a sa fonction. Donc, à la base, on travaille. On l'a dit dans la première émission, on a un revenu, on consomme une partie, on met une partie en réserve. Donc ça, c'est l'élément de base, le capital. Il faut s'interroger à quelle étape on se situe pour voir quel système nous devons utiliser pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Si on est à une phase d'investissement qui peut impliquer de prendre un prêt, on va regarder quel est le système qui donne des prêts. La bourse ne donne pas de prêts. L'assurance n'a pas pour vocation de donner des prêts. Donc on va se retrouver vers le système bancaire, on va épargner un compte normal et on va demander un crédit normal qu'on dit crédit consommateur. chaud, tout ça, ordinairement. Donc, pour quelqu'un qui a en tête de faire des projets qui nécessitent du capital, il peut effectivement s'appuyer sur le système bancaire, c'est tout à fait fondé. Quelqu'un qui a une logique plutôt de prévoyance. J'ai commencé à travailler, mon père est un peu âgé, je crains qu'il ne meure et que ça ne mélange toutes mes finances. Il va souscrire, en plus de l'épargne classique, à des plans d'assurance, par exemple, d'essai. La bourse ne fait pas de l'assurance d'essai. Donc, c'est une logique de prévoyance. J'ai pris juste un exemple. Il y a d'autres cas de prévoyance, la maladie et tout ça. Mais on peut aussi être à un stade où on a des capitaux qu'on veut fructifier. Je prendrai juste deux cas. Un fonctionnaire qui récupère un rappel. Et puis quelqu'un qui a travaillé depuis 5 ans, qui était chez ses parents, qui maintenant va aménager. Mais il lui reste toujours quand même l'épargne de 5 ans, comme on le dit en Côte d'Ivoire, de quelqu'un qui vivait au gratuit. Ces deux personnes-là sont jeunes. Moi, je suis dans la trentaine. J'ai du capital épargné sur des années. L'idée, c'est de faire fructifier ce capital-là pour générer des compléments de revenus qui vont m'aider dans la vie courante. Donc, pour faire fructifier, nous venons avec une réponse en disant le système le plus approprié, c'est le marché financier. Parce qu'avec le système des marchés financiers, comme on l'a vu, vous avez des taux de 9%, des taux de 10%. Ça, c'est au niveau du rendement. Et vous avez la possibilité de faire croître le capital. Vous avez les deux phénomènes à la fois. Donc, moi, je dirais déjà, quelqu'un qui a de l'argent n'a pas à aller systématiquement en bourse. Il doit réfléchir à quel niveau il se situe dans sa vie. Quand on évoquait le problème des revenus, je ne l'ai peut-être pas signifié, mais on peut avoir des dividendes de 1 million, 2 millions par an. On a des cas à l'EDB, 1 million 8 et puis 2 millions de dividendes par an.
En fonction de la mise aussi. Hein.
Oui, mais ils ont épargné en fait dans le temps. Le monsieur dont je parle de 2 millions, c'est un professeur d'université. Donc il épargnait tout au long de sa carrière tranquillement. Et l'autre, il a hérité du portefeuille de son père qui était à 5 niveaux. Et puis il a continué, je crois qu'il doit être dans la trentaine, il a continué à mettre de l'argent. Donc aujourd'hui, quand on a ce temps-là de placer cet argent-là, il peut nous revenir sous la forme 1 million 8, 2 millions par an. 1 million 8 par an pour vous donner une idée, ça fait 150 000 par mois. C'est vrai qu'on ne peut pas vivre de 150 000 francs par mois, mais c'est un vrai complément de revenus, je pense.
Vrai complément de revenus, hein, c'est dire que voilà, il y a des exemples concrets. On est tout heureux que M. Kouaou nous donne ces exemples-là pour dire que ce n'est pas une vue d'esprit. C'est effectivement une manière de se donner de la ressource complémentaire. Amis auditeurs, le réflexe à avoir lorsque vous êtes intéressé, vous prenez contact à M. Kouaou Brice. Justement, c'est des formations qui se font chaque mois. Et bien sûr, on va rappeler un peu le principe justement de cette formation.
Oui, nous sommes sur les réseaux sociaux et nous sommes sur Internet en général avec un blog. L'identité visuelle, le nom, c'est l'école de la bourse. Donc, l'école de la bourse.com, c'est pour le blog. L'école de la bourse en tant que page sur Facebook. L'école de la bourse en tant que groupe sur Facebook. Vous verrez que c'est la même identité visuelle. Au niveau du mail aussi, c'est la même chose. L'école de la bourse.yahoo.com. Donc, à toutes ces adresses-là, vous pouvez nous contacter et passer le cap de l'initiation.
Passer le cap de l'initiation. En tout cas, on va se retrouver la semaine prochaine. Merci de votre attention. Au revoir.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Tous les lundis, après les journaux de 8h et 18h.